Voilà, donc on va voir Saint-Louis-de-Montfort. Donc il faut bien graver ça dans nos mémoires. Les trois grandes dévotions de Saint-Louis-de-Montfort, c'est Jésus, considéré comme sagesse éternelle incarnée, la croix et la Vierge Marie. Donc, Saint-Louis-de-Montfort appelle Jésus la sagesse éternelle. Il arrive à cette conclusion que Jésus et la croix sont inséparables, que la sagesse c'est la croix et que la croix c'est la sagesse. La Sainte Vierge, dans cette dévotion, est présentée comme la confiture des croix. Donc c'est ça, la dévotion à la Sainte Vierge qui rend justement la croix et la sagesse, la croix aimable, et c'est elle qui nous obtient la sagesse. C'est un petit peu le résumé de toute sa dévotion. Donc il faut considérer, si vous voulez, que Saint-Louis-de-Montfort, c'est un des grands amis de la croix. On dit que dans ses écrits, il y a quelquefois, on n'avait rien écrit, le père Faber, par exemple, dit, il me semble que c'est lui, on n'a rien écrit de tel depuis Saint-Paul. Saint-Louis-de-Montfort a écrit des choses très belles. Alors, je vous donne trois petits faits de sa vie pour montrer un petit peu à quel point il a aimé la croix. Un beau jour, il prêchait une mission, et puis tout allait bien. Alors, il n'était pas du tout rassuré. Puis il a dit cette phrase célèbre, « Pas de croix, point de croix, quelle croix ?»« Point de croix, quelle croix ?» Alors, il y a eu aussi l'histoire de la mission dans son pays natal. Alors, dans son pays natal, vous savez, l'Évangile dit « Nul n'est prophète dans son pays. » Alors, quand il est allé dans son pays, il n'a pas prêché, il est monté en chair. Et puis il a pris son crucifix, puis il a montré son crucifix comme ça, avec un air que j'arrive pas à prendre, évidemment. Puis tout le monde a pleuré, et puis ça a été fini, puis le sermon était fini. Et alors on a dit de lui, cet homme, c'est un crucifix qui parle. Cet homme, c'est un crucifix qui parle. Donc c'est trois petits traits de sa vie qui nous montrent un petit peu l'amour de la croix qu'il a eu. Alors... Il faut savoir qu'il a vraiment aimé la croix et qu'il l'a recherchée toute sa vie. Donc il a demandé, il faisait prier les religieuses pour qu'elles lui obtiennent des croix. Il faisait faire des neuvaines pour avoir des croix. Nous, on a plutôt tendance à les traîner ou à les fuir, mais lui, il les poursuivait, il poursuivait la croix. Alors je vous lis une de ses dernières lettres qui est assez belle. Donc vous savez qu'il a fondé une congrégation religieuse, les Filles de la Sagesse, et il n'a pas été très souvent auprès d'elle, d'ailleurs. Il considérait que s'il mettait la main à la pâte, tout serait gâté. Parce qu'il, malgré tout ce qu'on pouvait dire de lui, il était convaincu que s'il se mêlait des affaires du bon Dieu, tout allait rater, quoi. Donc il n'était pas souvent auprès de ses filles, pour différentes raisons, à cause des missions, à cause d'un tas de choses. Alors souvent, il écrivait, et là... Donc un petit peu avant sa mort, il prêchait la dernière mission à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Et là, donc, 3 janvier, en 1716, de La Rochelle, depuis La Rochelle, ils avaient fait venir les Filles de la Sagesse là-bas pour faire l'école. Après 10 années de séparation, d'ailleurs. Et là, la supérieure Marie-Louise de Jésus, elle écrit... Parce que le local est trop petit, là où ils habitent, c'est trop petit, donc il faut trouver quelque chose de plus grand. Et alors il répond, donc cette lettre, qui montre un petit peu son amour de la croix. J'adore la conduite juste et amoureuse de la divine sagesse sur son petit troupeau, qui est logé à l'étroit chez les hommes, pour être logé et caché bien au large dans son divin cœur qui vient d'être percé pour cet effet. Oh, que ce cabinet sacré est salutaire et agréable à une âme vraiment sage. Par le Sacré-Cœur. Elle en est sortie avec le sang et l'eau quand la lance le perça. Elle y trouve son rendez-vous assuré quand elle est persécutée de ses ennemis. Elle y demeure cachée avec Jésus-Christ en Dieu, mais plus conquérante que les héros, plus couronnée que les rois, plus brillante que le soleil et plus élevée que les cieux. Si vous êtes l'élève de la sagesse et l'élu entre mille, que vos abandons, vos mépris, votre pauvreté et votre prétendue captivité vous paraîtront doux, puisqu'avec toutes ces choses de prix, vous achetez la sagesse, la liberté, la divinité du cœur de Jésus crucifié. Si Dieu ne m'avait pas donné des yeux autres que ceux que m'ont donné mes parents, donc c'est les yeux de la foi, Je me plaindrai, je m'inquiéterai avec les fous et les folles de ce monde corrompu, mais je n'ai garde de le faire. Et toutes ces croix, ces souffrances, eh bien, ça nous affole quand on n'a que des yeux humains et des yeux mondains. Mais avec les yeux de la foi, ça change tout. C'est un trésor. Sachez que j'attends d'autres renversements plus considérables et plus sensibles pour mettre notre foi et notre confiance à l'épreuve, pour fonder la communauté de la sagesse, non pas sur le sable mouvant de l'or et de l'argent dont le monde se sert tous les jours pour fonder et enrichir ses appartements, non pas aussi sur les bras de chair d'un mortel qui n'est tout au plus, quelque puissant qu'il soit, qu'une poignée de foin, mais pour la fonder sur la sagesse même de la croix du calvaire. Elle a été teinte, cette divine et adorable croix, elle a été teinte et empourprée du sang d'un Dieu, choisie pour être de toutes les créatures, la seule épouse de son cœur, le seul objet de ses désirs, le seul centre de toutes ses prétentions, la seule fin de ses travaux, la seule arme de son bras, le seul sceptre de son empire, la seule couronne de sa gloire et la seule compagne de son jugement. Cependant, ô incompréhensible jugement, cette croix a été abattue avec mépris et horreur, cachée et oubliée dans la terre pendant plus de 400 ans. Bon, il fait allusion au temps écoulé jusqu'à la découverte de Sainte-Hélène. Quoi. Et puis d'Héraclius aussi, surtout. Bon. Mes chères filles, appliquez ceci à l'état où vous vous trouvez actuellement. Je vous porte partout jusqu'au Saint-Autel. Je ne vous oublierai jamais pourvu que vous aimiez ma chère croix, en laquelle je vous suis allié, tandis que vous ne ferez point votre propre volonté, mais la sainte volonté de Dieu dans laquelle je suis tout à vous. Voilà, donc ça monte un petit peu, c'est vraiment une grande dévotion à la croix. Il y a d'autres belles lettres encore qu'on pourrait lire. Tout ça. Alors, parmi ces écrits, il y a une petite... Vous savez, ils fondaient des associations de pieux fidèles. Quoi. Donc les pénitents blancs, les vierges, les 44 vierges, bon, ils fondaient ça, des confréries, quoi, avant de partir. Et après, eh bien, il leur écrivait éventuellement. Et là, il a écrit donc une lettre aux amis de la croix. Bon, donc il avait fondé des œuvres de persévérance. Et il a écrit une lettre aux amis de la croix. Alors cette lettre... Elle a dû être écrite vers 1713-1714. Et puis là, il résume un petit peu, donc plutôt il développe une des quatre conditions pour obtenir la sagesse éternelle, donc pour obtenir l'union à Dieu, dont il avait déjà parlé dans le livre « L'amour de la sagesse éternelle ». Il avait énoncé à la fin les quatre conditions, donc la prière continuelle avec le rosaire, le grand désir d'acquérir la sagesse, la vraie dévotion à la Sainte Vierge, et puis la mortification universelle. Donc là, c'est un paragraphe qui est dans ce livre de l'amour de la sagesse éternelle, et cette lettre, ça développe un petit peu ça, on pourrait dire. Ça donne des précisions. Alors là, il écrit aux amis de la croix. Alors, qu'est-ce que c'est que cette lettre aux amis de la croix ? Eh bien, c'est pas très long, d'ailleurs. C'est pas très long. Il vient d'écrire ça chez les jésuites à Rennes, après une retraite chez les jésuites. D'ailleurs, il y a un passage qui fait beaucoup penser aux exercices de Saint-Ignace, les deux étendards, il appelle ça les deux parties. Donc il a écrit ça à ce moment-là, et il commente en fait, il explique ce que c'est qu'un ami de la croix, voyez, et il commente la phrase de l'évangile, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. » Et il commente tous les mots, de façon assez structurée d'ailleurs, systématique, donc on ne va pas tout lire. Et puis à la fin, sur « C'est quoi tourmer, qu'il me suive ?» Mais c'est là où il donne les 14 règles pour bien porter la croix. Donc c'est la dernière partie du livre qu'on va lire. Alors, avant de commencer cette lecture, vous savez aussi qu'il avait construit à Pont-Château, donc c'est près de Nantes, un immense calvaire qu'on voit, au lieu du calvaire, on voyait. Donc il y a toute l'Europe qui a travaillé à ça, pratiquement. Enfin, bon, toutes les régions de France, et puis des gens de Belgique, de partout, etc., qui ont construit ce calvaire. Alors il y avait les trois croix en haut, croix verte du Bon Larron, croix rouge du Mauvais Larron. Croix noire du Mauvais Larron, croix rouge du Christ. Et puis il y avait tout autour du calvaire, il y avait des sapins plantés. Chaque sapin, c'est un Ave Maria, donc il y a 153 arbres, un immense chapelet, si vous voulez, autour du calvaire. En bas, il y avait le jardin de l'Éden d'Adam et Ève, il y avait le jardin de l'agonie, il y avait le serpent des reins, il y avait des trucs, c'était très haut, on voyait 80 paroisses à la ronde. Donc il a construit ce calvaire avec de façon incroyable, quoi. Et puis la veille de l'inauguration, donc le 14 septembre, je ne sais plus de quelle année, eh bien le roi, donc Louis XIV, a interdit, donc la bénédiction a été interdite, et puis le roi a demandé la destruction du calvaire. Alors Saint Louis de Montfort a été dénoncé parce que les mauvaises langues étaient allées dire à la cour du roi que c'était une forteresse pour les Anglais qui allaient venir, que si les Anglais prennent cette forteresse, eh bien, il y aurait, ce serait une place forte dans le royaume de France, etc. Donc tout ça, alors il a supporté ça sans broncher, quoi. Sans broncher. Vous voyez, il y avait des grandes idées, non seulement dans sa tête, mais aussi en pratique. Ah, et donc ça montre un petit peu son amour de la croix. Il voulait que ça soit un centre d'attraction spirituelle, quoi. Donc voilà, l'histoire du calvaire de Pont-Château. Alors, donc on va voir les 14 règles pour souffrir comme il faut. Alors on dit, mais il ne suffit pas de souffrir, parce que le démon et le monde ont leur martyr. Ah oui? Il y a des gens qui meurent, qui sacrifient leur vie pour la cause du communisme. C'est les martyrs du communisme. Mais ben, dit non, il suffit pas de souffrir, il y a plein de gens qui souffrent, qui sont martyrs du monde de toutes sortes d'idéologies, mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de souffrir. Le démon et le monde ont leur martyr, mais il faut souffrir et porter sa croix sur les traces de Jésus-Christ. C'est quoi tourmer qu'ils me suivent, c'est-à-dire de la manière qu'il l'a porté. Et voici pour cela les règles que vous devez garder. Donc, il y a des règles. Première règle, eh bien, ça vous paraît tout bête, pour aimer les croix, ben la première chose, c'est de ne pas s'en procurer par sa faute. De ne pas se procurer des croix par sa propre faute. Il y a des gens, ils sont dans le pétrin, mais quelquefois on a envie de leur dire, ben, vous l'avez bien mérité. Ils s'y sont mis, c'est de leur faute. Vous voyez. Ne vous procurez point exprès et par votre faute des croix. Souvent, les croix qu'on porte le plus mal, ça peut être celles qu'on s'est provoquées par imprudence, par bêtise, par n'importe quoi. Oui. Ne vous procurez point exprès par votre faute des croix. Il ne faut pas faire du mal pour qu'il en arrive un bien. Ça, c'est un grand principe qu'il faut absolument se graver dans la tête. Il ne faut pas faire du mal pour qu'il en arrive un bien. Oui. Il ne faut pas, sans une inspiration spéciale, faire des choses d'une mauvaise manière pour s'attirer le mépris des hommes. Il faut plutôt imiter Jésus-Christ, dont il a dit qu'il a bien fait toutes choses. Non pas par amour propre ou par vanité, mais pour plaire à Dieu et pour gagner le prochain. Faites vos bonnes œuvres afin que ceux qui vous voient soient édifiés et louent votre plaire qui est dans votre Père des cieux. Et si vous acquittez le mieux que vous pourrez de vos emplois, si vous faites bien votre devoir d'État, alors là, vous ne manquerez pas de contradictions, ni de persécutions, ni de mépris, que la divine providence vous enverra contre votre volonté et sans votre choix. Donc, première règle, il ne faut pas faire exprès. Il ne faut pas faire exprès d'avoir des croix. Mais il dit, si vous faites bien votre devoir d'État, vous aurez des croix. Il ne faut pas les provoquer. Il faut recevoir celle que la Providence nous envoie. Alors, un prêtre qui fait son devoir, il est forcément attaqué. Et quand il ne le fait pas, il est attaqué aussi, de toute façon. C'est toujours pareil. Quand il ne le fait pas, on l'attaque parce qu'il ne le fait pas. Quand il le fait, on l'attaque parce qu'il le fait. C'est l'évangile, ça, hein. Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste vient, il jeûne, vous dites que c'est un démon, puis lui, il vient, il mange les bois, et vous dites que c'est un païen, etc. Vous voyez, ça, c'est les pharisiens, quoi. Ils attaquent toujours. On voit ça aussi dans la presse aujourd'hui. Les prêtres sont mêlés à des scandales, on les descend. Mais les prêtres font leur boulot en tradition, on les descend aussi. Vous voyez, c'est la mentalité du monde, ça. Deuxième règle. Alors là, il dit, il faut consulter le bien du prochain. C'est-à-dire qu'il faut éviter de scandaliser les gens. Parfois, il y a des gens qui nous critiquent, qui nous attaquent parce qu'on les a scandalisés. Et alors, là, il vise le scandale des faibles. Il dit, il faut faire attention de ne pas provoquer des histoires, quoi, auprès des gens faibles. Alors, si vous faites quelque chose d'indifférent, dont le prochain se scandalise, c'est-à-dire quelque chose qu'on pourrait très bien faire, mais quelqu'un est soit mal formé, soit... Moi, j'en sais rien, je prends un exemple tout concret. Vous voyez, le lundi de Pentecôte, par exemple. De fait, c'est chômé en France. Alors, il pourrait très bien avoir un village où tout le monde pense qu'on ne peut pas travailler lundi de Pentecôte, parce que c'est chômé. C'est faux. Alors, un peu comme on ne peut pas travailler le dimanche, quoi. Alors, voilà quelqu'un dans le village qui dit, bon, de toute façon, moi, j'ai appris au catéchisme que c'est pas... Un jour, on peut faire les travaux servis, donc je vais laver ma voiture. Mais tout le village pense qu'on ne peut pas, parce que c'est une idée, une fausse idée qui est dans le peuple. Il lave sa voiture, il scandalise tout le monde, et puis après, il se fait injurier, etc. Et ben, c'est typique, c'est ça. C'est vrai qu'on peut laver sa voiture lundi de Pentecôte, mais puisque tout le monde a une conscience erronée et pense un péché, ben, il ne faut pas le faire. Pourtant, on pourrait bien le faire. Voyez. Si vous faites quelque chose d'indifférent dont le prochain se scandalise, quoique mal à propos, oui, c'est exactement le cas que je l'ai dit, abstenez-vous-en par charité, pour faire cesser le scandale des petits. Et l'acte héroïque de charité que vous faites en cette occasion vaut infiniment mieux que la chose que vous faisiez ou que vous vouliez faire. Si cependant le bien que vous faites est nécessaire ou utile au prochain, et que quelques pharisiens ou mauvais esprits s'en scandalisent mal à propos, voyez, consultez un sage pour savoir si la chose que vous faites est nécessaire et beaucoup utile au commun du prochain. Et s'il la juge telle, continuez-la et laissez dire, pourvu qu'il vous laisse faire, et répondez en cette occasion ce que répondit notre Seigneur à quelques-uns de ses disciples, qui vinrent lui dire que les scribes et les pharisiens s'étaient scandalisés de ses paroles et de ses actions, laissez-les, ce sont des aveugles. Bon, le scandale pharisaïque, c'est ceux qui se... Par exemple, qui se scandalise du bien qui est fait. Vous faites du bien. Bon, à un degré moindre, c'est les critiques, si vous voulez. Les gens qui critiquent le bien qu'on fait. On fait le bien, puis ils ont une mauvaise intention vis-à-vis de nous, ils nous critiquent. Bon, c'est du scandale pharisien. Ben ça, il dit, les scellés, ce sont des aveugles. On prend conseil auprès de son confesseur si on continue la chose ou pas. Alors, donc ne pas scandaliser, ne pas se provoquer des croix parce qu'on a scandalisé les autres. Vous comprenez ? Ne pas se mettre tout le monde à dos parce qu'on a scandalisé les autres quand c'est un scandale des faibles. Bon. Les croix, là, c'est pas seulement les maladies, etc. C'est toutes sortes de croix. Hein. Alors, admirer sans prétendre l'atteindre la sublime vertu des saints. Donc il ne faut pas vouloir imiter les saints. Troisième règle. Quoique quelques saints et grands personnages aient demandé, recherché et même se soient procurés par des actions ridicules, des croix, des mépris et des humiliations, adorons et admirons seulement l'opération extraordinaire du Saint-Esprit dans leurs âmes et humilions-nous à la vue d'une si sublime vertu sans oser voler si haut. N'étant auprès de ces aigles rapides et de ces lions rugissants que des poules mouillées et des chiens morts. Vous voyez, il dit, c'est pas la peine de vouloir imiter les grands saints, ils sont plus admirables que imitables. Donc, il y a un exemple célèbre, le curé qui voulait imiter le curé d'Arc avec ses pommes de terre pourries. Bon, il est devenu fou, quoi. Perdu la tête. Il a voulu imiter le curé d'Arc, c'est devenu fou. Quatrième conseil, il dit, ben voilà, il faut demander par contre. L'amour de la croix. Oui. Demandez l'amour de la croix. Vous pouvez cependant, et même vous devez demander la sagesse de la croix, qui est une science savoureuse et expérimentale de la vérité, qui fait voir dans le jour de la foi les mystères les plus cachés, entre autres celui de la croix. Donc il faut demander cet amour de la croix. Ce qu'on n'obtient que par de grands travaux, de profondes humiliations et de ferventes prières. Si vous avez besoin de cet esprit principal qui fait porter les croix les plus lourdes avec courage, et de cet esprit bon et doux qui fait goûter dans la partie supérieure de l'âme les amertumes les plus dégoûtantes, de cet esprit saint et droit qui ne cherche que Dieu, de cette science de la croix qui renferme toutes choses, en un mot de ce trésor infini dont le bon usage rend une âme participante de l'amitié de Dieu, demandez la sagesse. Demandez-la incessamment et fortement, sans hésiter, sans crainte de ne la pas obtenir. Et vous l'aurez immanquablement. Et puis vous verrez clairement, par expérience, comment il se peut faire qu'on désire, qu'on recherche et qu'on goûte la croix. Enfin, il dit, voilà, c'est simple, il faut demander l'amour de la croix. Alors il dit, ça paraît incroyable qu'on puisse aimer les croix, et pourtant si. Quand on obtient l'amour de la croix, eh bien, on finit par désirer, rechercher et goûter les croix. C'est ce qui lui faisait dire, pas de croix, quelle croix. À la fin, la souffrance, avec la grâce de Dieu, et pour dans le but du salut, évidemment, de la rédemption, la souffrance, c'est ce qui assaisonne la vie spirituelle, quoi. C'est ce qui donne du goût à la vie spirituelle. Et souvent, après, quand on s'est habitué à ça, qu'on a appris à porter ses croix, qu'on les aime, qu'on les porte et qu'on les embrasse, quand ça s'arrête, ben, il y a un vide, quoi. Et ça, il faut avouer qu'on est loin de ça. Hein. On est loin de ça. On peut dire que toute notre vie, faut être honnête, toute la vie humaine est une lutte continuelle contre les croix. La maladie, la souffrance, la faim, le froid, faut bien avouer, quoi. Quand on construit une maison, bah c'est quoi? C'est pour avoir chaud et être à l'abri, et puis éloigner ça. Eh bien, faut avouer que nous, on passe notre vie à éviter nos croix, quoi. Faut avouer, on est comme ça. Mais il dit non, une fois qu'on a la croix, eh bien, on goûte la croix. Alors ensuite, cinquième règle. Il faut s'humilier de ses fautes sans se troubler. Quand vous aurez par ignorance ou même par votre faute, donc dans le cadre d'un péché, fait quelques bévues qui vous procurent quelques croix, humiliez-vous-en aussitôt en vous-même, sous la main puissante de Dieu, sans vous en troubler volontairement, en disant par exemple intérieurement, « Voilà Seigneur, un tour de mon métier. » On dirait aujourd'hui, « Voilà Seigneur, de quoi je suis capable. Je ne vaux rien du tout. » Et s'il y a du péché dans la faute que vous avez faite, prenez l'humiliation qui vous en revient comme un châtiment. Il dit ça tout simplement. Et s'il y a... Vous savez, c'est un châtiment, c'est simplement dire, c'est comme l'enfant qui aurait fait une bêtise, il reçoit une punition, puis il dit, bah oui, je l'ai mérité, merci papa, merci maman. Ouais, c'est un petit peu ça. Les enfants comprennent bien, comprennent très bien ça. Hein. Au catéchisme, on leur dit, si vous avez mérité une punition, est-ce que c'est bien à donner? Ben oui, c'est bien à donner. Et est-ce que ce serait bien de ne pas la donner? Ah ben non, c'est pas bien. Ah ben oui, donc vous savez, tout est bien alors. Vous voyez, les enfants, ils comprennent quoi, qu'une punition méritée, c'est bien. Oui, voilà. Alors, et s'il n'y a point de péché comme une humiliation de votre orgueil? Voilà, si vous avez fait un péché, c'est un châtiment. Si vous n'avez pas de péché, c'est une humiliation de votre orgueil. Souvent, et même très souvent, Dieu permet que ses plus grands serviteurs, qui sont les plus élevés en sa grâce, fassent des fautes des plus humiliantes, afin de les humilier à leurs yeux et devant les hommes, afin de leur ôter la vue et la pensée orgueilleuse des grâces qu'il leur donne et du bien qu'ils font, afin qu'aucune chair, comme dit le Saint-Esprit, ne se glorifie devant Dieu. Donc, vous voyez, donc c'est là le piège contre l'amour propre. Sixième règle. Dieu nous humilie pour nous purifier. Alors, sixième règle, c'est éviter les retours d'amour propre. Parce qu'il dit, voilà, on va demander l'amour des croix, mais quand on va commencer à aimer sa croix, là encore, il y a de l'amour propre qui va se mélanger là-dedans. On peut encore faire de l'orgueil en portant ses croix. Soyez bien persuadés que tout ce qui est en nous est tout corrompu. Disons, pour être plus précis, est presque entièrement corrompu. Parce que la nature n'est pas détruite. Elle est viciée, mais elle n'est pas détruite. tout corrompu par le péché d'Adam et par les péchés actuels. Et non seulement les sens du corps, mais toutes les puissances de l'âme, l'intelligence, la volonté, toutes les puissances sont viciées. Et que dès lors que notre esprit corrompu regarde quelques dons de Dieu, en nous avec réflexion et complaisance, voyez, Dieu nous fait un don et on se rend compte, par exemple, qu'on a remporté une victoire de patience dans une épreuve où on aurait pu être impatient habituellement. Et puis on regarde ça en nous. On dit, tiens, là, bah, tiens, j'ai réussi. C'est un retour d'amour propre, ça. C'est un retour de complaisance sur soi. Eh bien, il dit, dès lors que notre esprit corrompu regarde quelques dons de Dieu en nous avec réflexion et complaisance, ce don, cette action, cette grâce devient toute souillée et corrompue, et Dieu en détourne ses yeux divins. Vous voyez jusqu'où ça va, quoi. Par exemple, on fait des efforts pour être patient, puis d'un seul coup, on a une occasion où d'habitude on est impatient, et cette fois-là, on est patient. Et puis, tiens, ben là, pour une fois, j'ai réussi. Et là, c'est fini. Dieu avait donné une grâce, et comme on s'est retourné dessus, par amour propre, le bon Dieu ne veut plus l'avoir. Et c'est ce qu'il explique là. Si les regards et les pensées de l'esprit de l'homme gâtent ainsi les meilleures actions et les dons les plus divins, que dirons-nous des actes de la volonté propre qui sont encore plus corrompus que ceux de l'esprit ? Vous voyez, de se dire, de faire le raisonnement, tiens, là, j'ai réussi quelque chose. C'est qu'un raisonnement, ça. Déjà, ça déplaît à Dieu. Mais si en plus on éprouve de la joie, tiens, oui, je suis vraiment joyeux d'avoir réussi. Vous voyez, si la volonté se met encore là-dedans, ben c'est encore pire. Ça déplaît encore plus à Dieu de se réjouir de ça. On peut faire que le raisonnement. Mais si après le raisonnement, la volonté prend de la joie là-dedans, elle se complète là-dedans, eh bien, ça augmente encore le désagrément que Dieu a de notre retour d'amour propre. Si vous voulez. Donc il dit, en fait, après cela, il ne faut pas s'étonner si Dieu prend plaisir à cacher les siens dans le secret de sa face, afin qu'ils ne soient point souillés par les regards des hommes et par leur propre connaissance. Et pour les cacher ainsi, que ne permet et ne fait point ce Dieu jaloux ? Combien d'humiliations leur procure-t-il ? En combien de fautes les laisse-t-il tomber ? De quelle tentation permet-il qu'ils soient attaqués comme saint Paul ? Saint Paul, il était tenté contre la pureté. En quelles incertitudes, ténèbres, perplexités les laisse-t-il ? Oh, que Dieu est admirable dans ses saints et dans les voies qu'il tient pour les conduire à l'humilité et à la sainteté. Donc c'est le cas du roi David qui tombe dans son péché. Bon, il doit y avoir d'autres saints qui sont tombés dans le péché. Il y a des saints, Saint-Pierre, qui sont tombés dans le péché. Le bon Dieu permet ça pour les humilier et cacher les dons qu'il leur fait malgré ses péchés. Alors, il continue. Évitez encore les pièges de l'orgueil. Prenez donc bien garde de croire comme les dévots orgueilleux et pleins d'eux-mêmes que vos croix sont grandes et qu'elles sont des épreuves de votre fidélité et des témoignages d'un amour singulier de Dieu en votre endroit. Il y a des gens, voilà, ils ont compris que la croix c'est un trésor. Alors dès qu'ils ont des croix, ben, ils s'imaginent qu'ils ont de grandes croix. Ce sont des martyrs du bon Dieu, quoi. Ils s'imaginent qu'ils ont des croix qui sont plus grandes que les autres, qu'elles sont insupportables. Et si vous voulez, et bien alors ils s'imaginent, voilà, c'est parce que je suis fidèle que Dieu m'envoie des croix, c'est une récompense, vous voyez, donc ça c'est de l'orgueil en fait. Ou bien alors un témoignage d'amour singulier, Dieu m'aime plus que tout le monde parce qu'il m'envoie des croix. Ça il dit, tout ça c'est des pièges. C'est des pièges. Alors généralement, c'est à dire que nos souffrances, généralement, elles ne sont pas si grandes que ça. C'est nous qui les grossissons, on a une loupe. Tout ce qui est en nous, à cause de notre corruption, on voit tout avec une loupe. Donc, encore une fois, une petite souffrance, puis on la prend pour un truc insupportable. On fonctionne comme ça. Ce piège d'orgueil spirituel est fort fin et délicat, mais plein de venin. Vous devez croire, et il donne le remède, que votre orgueil et votre délicatesse vous font prendre pour des poutres des pailles, pour des plaies des piqûres, pour un éléphant un rat, pour une intruse atroce et un abandon cruel, une petite parole en l'air, un petit rien dans la vérité. Quelqu'un, enfin, nous regarde simplement d'une certaine façon, puis on se dit, ça y est, il m'en veut, etc. Vous voyez, quelqu'un nous dit un truc sur un ton un petit peu rêche, et puis on dit, ça y est, il ne me supporte plus. Vous voyez, on grossit tout, quoi. Vous devez croire ensuite que les croix que Dieu vous envoie sont plutôt des châtiments amoureux de vos péchés, comme il est en effet, que des marques d'une bienveillance spéciale. Bon, c'est un petit peu un arrangement à l'amiable entre bon Dieu et nous quand il nous envoie des croix. Que quelques croix et quelques humiliations qu'il vous envoie, donc comme le marchand au regard de son comptoir. Faites profit de tout. Ne laissez pas perdre la moindre parcelle de la vraie croix. Quand ce ne serait qu'une piqûre de mouche ou d'épingle, qu'un petit travers d'un voisin, qu'une petite injure par méprise, qu'une petite perte d'un denier, qu'un petit trouble de l'âme, qu'une petite lassitude dans le corps, qu'une petite douleur dans un de vos membres. Faites profit de tout, comme l'épicier de sa boutique, et vous deviendrez bientôt riche en Dieu, comme il devient riche en argent, en mettant denier sur denier dans son comptoir. À la moindre petite traverse qui vous arrive, dites « Béni soit Dieu, merci mon Dieu, je vous remercie ». Et puis, cachez dans la mémoire de Dieu ce qui est comme votre comptoir, la croix que vous venez de gagner. Et puis, ne vous en vous souvenez plus que pour dire grand merci ou miséricorde. Vous voyez ? Et en fait, il faut supporter les petites contradictions. Et les mettre dans la mémoire du bon Dieu et ne plus y penser. Alors après, il explique une chose, il dit voilà, je vous conseille d'aimer la croix, mais attention, il ne faut pas se tromper sur la signification du mot aimer la croix. Quand on vous dit d'aimer la croix, on ne vous parle pas d'un amour sensible qui est impossible à la nature. Distinguez donc bien trois amours. L'amour sensible, l'amour raisonnable, l'amour fidèle et suprême. Ou autrement, il reprend la même distinction, pour l'amour sensible, c'est l'amour de la partie inférieure qui est la chair. L'amour raisonnable, c'est l'amour de la partie supérieure qui est la raison, disons l'intelligence. Et l'amour de la partie suprême, ou la cime de l'âme, qui est l'intelligence éclairée par la foi. Donc, il y a plusieurs, si vous voulez. C'est un petit peu comme nous, on a en nous l'amour sensible, c'est l'amour par lequel on aime le chocolat, par exemple. Bon, et l'amour raisonnable, l'amour par lequel on aime les sciences, par exemple, la connaissance. Puis l'amour surnaturel, l'amour qui fait qu'on aime les choses surnaturelles, ou même la souffrance pour le salut. On a plusieurs niveaux d'amour, si vous voulez. Bon. Dieu ne le demande pas de vous. Dieu ne demande pas de vous que vous aimiez la croix de la volonté de la chair. Ah non, par définition, la souffrance est dans la chair, ça déplaît à la chair. Donc c'est impossible d'aimer la croix dans la chair. Comme elle est toute corrompue et si criminelle, cette chair, tout ce qui en est corrompu. Et même si on aimait avec la chair, sensiblement la croix, c'est qu'on serait plutôt détraqué, quoi. Bon, ce serait du sadisme, quoi. Masochisme. Bon. Alors, elle ne peut être soumise par elle-même à la volonté de Dieu et à sa loi crucifiante. C'est pourquoi notre Seigneur, parlant d'elle, donc de la volonté de la chair, bon, sachant qu'elle n'était pas corrompue chez notre Seigneur, hein. C'est pourquoi le Seigneur, parlant d'elle au Jardin des Olives, s'écria « Mon Père, que votre volonté soit faite, mais pas la mienne. Si la partie inférieure de l'homme-Dieu, Jésus-Christ, quoiqu'elle fût sainte, n'a pas pu aimer la croix sans aucune interruption, à plus forte raison, la nôtre, qui est toute corrompue, la repoussera-t-elle » Si déjà notre Seigneur a été rebuté par la croix, lui qui était Dieu, bien nous qui sommes corrompus, on est encore plus rebuté par la croix que notre Seigneur. Donc ce n'est pas la peine. Notre Seigneur n'a pas pu aimer continuellement la croix dans sa chair. Bon, donc nous, on ne peut pas y arriver non plus. Nous pouvons à la vérité éprouver quelquefois, alors là il explique quelque chose, nous pouvons à la vérité éprouver quelquefois une joie même sensible de ce que nous souffrons, comme plusieurs saints l'ont ressenti. Mais cette joie ne vient pas de la chair, quoi qu'elle soit dans la chair. Elle ne vient que de la partie supérieure de l'âme, qui est si remplie de cette divine joie du Saint-Esprit, qui a une redondance, ça rejaillit sur la chair. Donc là, quelquefois, on peut avoir une joie dans la chair de souffrir quelque chose, mais ça ne vient pas de la chair, c'est dans la chair, mais pas de la chair. Ça vient de l'âme qui est comblée des grâces du Saint-Esprit, et puis il y a une redondance de l'âme sur le corps, et le corps participe à la joie de l'âme. Vous voyez ? Mais ça ne vient pas de la chair, ça vient de l'âme. Vous voyez ? Alors, elle ne vient pas de la chair, quoi qu'elle soit dans la chair. Elle ne vient que de la partie supérieure, qui est si remplie de cette divine joie du Saint-Esprit, qu'elle la fait rejaillir jusque sur la partie inférieure, en sorte qu'en ce moment, la personne la plus crucifiée peut dire « Mon cœur et ma chair ont tressailli d'allégresse dans le Dieu vivant. » Bon, Saint Paul aussi qui dit « Je surabonde de joie dans mes tribulations. » Il y a un autre amour de la croix que j'appelle raisonnable, et qui est dans la partie supérieure qui est la raison. Cet amour est tout spirituel, et comme il naît de la connaissance du bonheur qu'on a de souffrir pour Dieu, donc vous voyez, là la joie, c'est pas la joie du mal. C'est qu'on souffre pour Dieu, on perçoit que cette souffrance est pour Dieu et pour le salut et la rédemption, et on a une joie de cette chose-là. Alors, il est perceptible et même aperçu par l'âme. Il la réjouit intérieurement et la fortifie. Mais cet amour raisonnable et aperçu, quoique bon et très bon, n'est pas toujours nécessaire pour souffrir joyeusement et divinement. Maintenant, attention, il peut très bien ne pas avoir de joie sensible, même pas de joie raisonnable, dont on vient de parler, mais il y a une joie encore au-dessus. Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, elle parle de ça dans un livre du Père Liagre, qui est un père du Saint-Esprit, qui s'appelle Retraite avec Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. Un jour, il y avait une espèce de verre, une potion médicale sur son table de nuit, là, puis un rouge, vraiment, qui mettait l'eau à la bouche, quoi. Et puis, alors, elle disait, il y avait une sœur qui, je me souviens plus très bien, j'ai eu ça hier. Donc, comme le marchand au regard de son comptoir, faites profit de tout. Ne laissez pas perdre la moindre parcelle de la vraie croix. Quand ce ne serait qu'une piqûre de mouche ou d'épingle, qu'un petit travers d'un voisin, qu'une petite injure par méprise, qu'une petite perte d'un denier, qu'un petit trouble de l'âme, qu'une petite lassitude dans le corps, qu'une petite douleur dans un de vos membres. Faites profit de tout, comme l'épicier de sa boutique, et vous deviendrez bientôt riche en Dieu, comme il devient riche en argent, en mettant denier sur denier dans son comptoir. À la moindre petite traverse qui vous arrive, dites « Béni soit Dieu, merci mon Dieu, je vous remercie. » Et puis, cachez dans la mémoire de Dieu ce qui est comme votre comptoir, la croix que vous venez de gagner. Et puis, ne vous en vous souvenez plus que pour dire grand merci ou miséricorde. Vous voyez ? Et en fait, il faut supporter les petites contradictions. Et les mettre dans la mémoire du bon Dieu et ne plus y penser. Alors après, il explique une chose, il dit, voilà, je vous conseille d'aimer la croix, mais attention, il ne faut pas se tromper sur la signification du mot aimer la croix. Quand on vous dit d'aimer la croix, on ne vous parle pas d'un amour sensible qui est impossible à la nature. Distinguez donc bien trois amours. L'amour sensible, l'amour raisonnable, l'amour fidèle et suprême. Ou autrement, il reprend la même distinction, pour l'amour sensible, c'est l'amour de la partie inférieure qui est la chair. L'amour raisonnable, c'est l'amour de la partie supérieure qui est la raison, disons l'intelligence. Et l'amour de la partie suprême, ou la cime de l'âme, qui est l'intelligence éclairée par la foi. Donc, il y a plusieurs, si vous voulez, c'est un petit peu comme nous, on a en nous l'amour sensible, c'est l'amour par lequel on aime le chocolat, par exemple. Bon. Et l'amour raisonnable, l'amour par lequel on aime les sciences, par exemple, la connaissance. Puis l'amour surnaturel, l'amour qui fait qu'on aime les choses surnaturelles, ou même la souffrance pour le salut. Bon. On a plusieurs niveaux d'amour, si vous voulez. Bon. Dieu ne le demande pas de vous. Dieu ne demande pas de vous que vous aimiez la croix de la volonté de la chair. Ah non, par définition, la souffrance est dans la chair, ça déplaît à la chair. Donc c'est impossible d'aimer la croix dans la chair. Comme elle est toute corrompue et si criminelle, cette chair, tout ce qui en est corrompu. Et même si on aimait avec la chair sensiblement la croix, c'est qu'on serait plutôt détraqué, quoi. Bon, ce serait du sadisme, quoi. Masochisme. Bon. Alors, elle ne peut être soumise par elle-même à la volonté de Dieu et à sa loi crucifiante. C'est pourquoi notre Seigneur, parlant d'elle, donc de la volonté de la chair, bon, sachant qu'elle n'était pas corrompue chez notre Seigneur, hein. C'est pourquoi un Seigneur parlant d'elle au Jardin des Olives s'écria « Mon Père, que votre volonté soit faite, mais pas la mienne. Si la partie inférieure de l'homme-Dieu, Jésus-Christ, quoiqu'elle fût sainte, n'a pas pu aimer la croix sans aucune interruption, à plus forte raison la nôtre, qui est toute corrompue, la repoussera-t-elle » Si déjà notre Seigneur a été rebuté par la croix, lui qui était Dieu, bien nous qui sommes corrompus, on est encore plus rebuté par la croix que notre Seigneur. Donc c'est pas la peine. Notre Seigneur n'a pas pu aimer continuellement la croix dans sa chair. Donc nous, on ne peut pas y arriver non plus. Nous pouvons à la vérité éprouver quelquefois, alors là il explique quelque chose. Nous pouvons à la vérité éprouver quelquefois une joie même sensible de ce que nous souffrons. comme plusieurs saints l'ont ressenti. Mais cette joie ne vient pas de la chair, quoiqu'elle soit dans la chair. Elle ne vient que de la partie supérieure de l'âme, qui est si remplie de cette divine joie du Saint-Esprit, qui a une redondance. Ça rejaillit sur la chair. Donc là, quelquefois, on peut avoir une joie dans la chair de souffrir quelque chose, mais ça ne vient pas de la chair. C'est dans la chair, mais pas de la chair. Ça vient de l'âme qui est comblée des grâces du Saint-Esprit, et puis il y a une redondance de l'âme sur le corps, et le corps participe à la joie de l'âme. Vous voyez ? Mais ça ne vient pas de la chair, ça vient de l'âme. Vous voyez ? Alors, elle ne vient pas de la chair, quoi qu'elle soit dans la chair. Elle ne vient que de la partie supérieure, qui est si remplie de cette divine joie du Saint-Esprit, qu'elle la fait rejaillir jusque sur la partie inférieure, en sorte qu'en ce moment, la personne la plus crucifiée peut dire « Mon cœur et ma chair ont tressailli d'allégresse dans le Dieu vivant. » Bon, saint Paul aussi qui dit « Je surabonde de joie dans mes tribulations. » Il y a un autre amour de la croix que j'appelle raisonnable et qui est dans la partie supérieure qui est la raison. Cet amour est tout spirituel. Et comme il naît de la connaissance du bonheur qu'on a de souffrir pour Dieu, donc vous voyez, là, la joie, ce n'est pas la joie du mal. C'est qu'on souffre pour Dieu, on perçoit que cette souffrance est pour Dieu et pour le salut et la rédemption, et on a une joie de cette chose-là. Alors, il est perceptible et même aperçu par l'âme. Il la réjouit intérieurement et la fortifie. Mais cet amour raisonnable et aperçu, quoique bon et très bon, n'est pas toujours nécessaire pour souffrir joyeusement et divinement. Maintenant, attention, il faut très bien ne pas avoir de joie sensible, même pas de joie raisonnable, dont on vient de parler, mais il y a une joie encore au-dessus. Sainte Thérèse Enfant Jésus, elle parle de ça dans un livre du Père Liagre, qui est un père du Saint-Esprit, qui s'appelle Retraite avec Sainte Thérèse Enfant Jésus. Un jour, il y avait une espèce de verre, une potion médicale sur son table de nuit, là, puis un rouge vraiment qui mettait l'eau à la bouche, quoi. Et puis, alors, elle disait, il y avait une sœur qui, je me souviens plus très bien, j'ai eu ça il y a longtemps, mais il y a une sœur qui devait dire, « Oh, ma sœur, vous êtes toujours joyeuse. » Elle dit, détrompez-vous, parce que, voyez, ce verre-là, il a l'air très bon, mais c'est dégoûtant. Ma vie, ça a été comme ça, quoi. Elle a eu l'air joyeuse, mais en fait, j'ai eu que des souffrances, quoi. Donc, elle était passée à ce niveau supérieur de joie, si vous voulez. Une joie pas sensible, même au-dessus de la raison, une joie qui vient de plus haut. C'est pourquoi il y a un autre amour de la cime et de la pointe de l'âme, disent les maîtres de la vie spirituelle, ou de l'intelligence, disent les philosophes, par lequel, sans ressentir aucune joie dans les sens, sans apercevoir aucun plaisir raisonnable dans l'âme, on aime cependant et on goûte, par la vue de la pure foi, la croix qu'on porte. Quoique souvent, tout soit en guerre et en alarme dans la partie inférieure, qui gémit, qui se plaint, qui pleure et qui cherche à se soulager, en sorte qu'on dise avec Jésus-Christ, « Mon Père, que votre volonté soit faite, mais non pas la mienne », ou avec la Sainte Vierge, « Voici l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » C'est de l'un de ces deux amours de la partie supérieure que nous devons aimer la croix. Donc, voyez, il dit, cet amour suprême de la croix, on peut très bien même souffrir dans son corps. Et il dit, tout peut être en révolte dans le corps. On peut être impatient, le corps a envie de se soulager, il se plaint, il gémit, etc. On supporte mal, mais en haut, là, tout en haut, ben, on est fixé dans la volonté de Dieu, puis on se réjouit de souffrir. Bon. Alors il dit, l'amour de la croix dont on parle, c'est soit l'amour raisonnable, dont on a parlé avant, soit l'amour spirituel, suprême, dont on parle maintenant. Oui. Mais c'est jamais l'amour de la chair, c'est jamais la chair qui aime la souffrance pour elle-même. Ce serait du masochisme. Bon, alors. Alors, il continue. Dixième règle, il faut tout souffrir. Il ne faut pas choisir ses croix. Il faut accepter tout ce que Dieu nous envoie, sans exception. Résolvez-vous, cher ami de la croix, à souffrir toutes sortes de croix sans exception et sans choix. Toute pauvreté, toute injustice, toute perte, toute maladie, toute humiliation, toute contradiction, toute calomnie, toute sécheresse, tout abandon, toute peine intérieure et extérieure. Disant toujours, ô bon Dieu, mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. C'est un psaume. Préparez-vous donc à être délaissé des hommes et des anges, et comme de Dieu même, à être persécuté, envié, trahi, calomnié, discrédité et abandonné de tous. À souffrir la faim, la soif, la mendicité, la nudité, l'exil, la prison, la potence et toutes sortes de supplices, quoique vous ne l'ayez pas mérité pour les crimes qu'on vous impose. » pour les crimes dont on vous accuse faussement. Enfin, imaginez-vous qu'après avoir perdu tous vos biens et votre honneur, qu'après avoir été jeté hors de votre maison, comme Job et Sainte Élisabeth, reine de Hongrie, on vous jette comme cette sainte dans la boue et qu'on vous traîne comme Job sur un fumier tout puant et couvert d'ulcères, sans qu'on vous donne du linge pour mettre sur vos plaies, ni un morceau de pain à manger, qu'on ne refuserait pas à un cheval ou à un chien, et qu'avec tous ces maux extrêmes, Dieu vous laisse comme en proie à toutes les tentations des démons, sans verser dans votre âme la moindre consolation sensible. Croyez fermement, et voilà le souverain point de la gloire divine et de la félicité véritable d'un vrai et parfait ami de la croix. Voilà, le jour où vous arrivez avec tout ça sur le dos, eh bien, ça y est, vous êtes au but, c'est là la plus grande gloire. Ça nous dépasse complètement. On s'imagine beaucoup trop, si vous voulez, que les croix des saints et même le calvaire de notre Seigneur, ça a été, un mauvais moment à passer. Quoi. On s'imagine qu'ils ont serré les dents à des poings, ils se sont dit « Allez, on y va, au plus vite c'est fini, au plus vite on est tranquille. » Vous voyez, on a l'impression que c'est ça. C'est complètement faux. On verra ça la prochaine fois, donc 1er avril. C'est que notre Seigneur, nous, si vous voulez, on a quand même vivement les vacances. Quoi. Puis, il faut qu'on ait les vacances, ça y est, alors on se repaie. Ah voilà mes vacances, qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Et puis, on est là, comme ça. Bon, et maintenant, notre Seigneur, ce désir, cette délectation, si vous voulez, du repos, des vacances et tout qu'on a, notre Seigneur, ça a été dans la croix. Quoi. Donc, si vous voulez, au moins, il était crucifié. Ça n'a pas été, bon, allez, au plus vite c'est réglé, au plus vite on n'en parle plus, ça n'a pas été ça, c'est notre Seigneur a voulu ça, et au moment où il était, ben, c'est ça qu'il voulait, quoi. Vous voyez ? Notre Seigneur a été glorieux, crucifié sur sa croix, vous voyez ? Eh bien, nous, c'est quand on est couvert de tous les maux qu'on a atteint le sommet de la gloire ici-bas sur terre. Quoi. Ça nous dépasse complètement, quoi. Complètement. On ne peut pas comprendre, quoi. Il faut une grâce spéciale pour comprendre ça. Il dit, croyez fermement lorsque vous êtes accablé de tous les maux, comme Job sur son fumier, etc. Voilà le souverain point de la gloire divine. C'est ça qu'il dit. Hein. Et de la félicité véritable d'un vrai et parfait ami de la croix. Ouais. Alors la note, là, intéressante. Dans ces lignes sublimes où transpire la sainte folie de la croix, ne croirait-on pas entendre un saint François d'Assise disant à frère Léon, devant le tableau des pires rebuts, là est la joie parfaite. Alors 11e. Pour vous aider à bien souffrir, faites-vous une sainte habitude de regarder quatre choses. On dit, voilà, il donne un truc. Les quatre stimulants de la bonne souffrance. Alors, l'œil de Dieu, la main de Dieu, les plaies, les douleurs de Jésus-Christ crucifié, en haut, le ciel, et en bas, l'enfer. C'est très bien. Premièrement, regardez l'œil de Dieu, qui, comme un grand roi, du haut d'une tour, regarde son soldat dans la mêlée avec complaisance et avec louange de son courage. Qu'est-ce que Dieu regarde sur la terre? Les rois, les empereurs sur leur trône? Il ne les regarde souvent qu'avec mépris. Est-ce qu'il regarde les grandes armées, les grandes victoires des armées de l'État, les pierres précieuses, les choses en un mot qui sont grandes aux yeux des hommes? Ce qui est grand aux yeux des hommes est une abomination devant Dieu. Qu'est-ce donc qu'il regarde avec plaisir et complaisance, et dont il demande des nouvelles aux anges et aux démons même. Il fait allusion au livre de Job, là. C'est un homme qui se bat pour Dieu avec la fortune, avec le monde, avec l'enfer et avec soi-même. Un homme qui porte joyeusement sa croix. N'as-tu pas vu sur la terre une grande merveille que tout le ciel regarde avec admiration, dit le Seigneur à Satan. N'as-tu pas vu mon serviteur Job qui souffre pour moi? Deuxièmement, regardez la main de Dieu. Secondement, considérez la main de ce puissant Seigneur qui fait tout le mal de la nature qui nous arrive, depuis le plus grand jusqu'au moindre. Vous savez qu'il n'y a que le mal moral que Dieu n'a pas fait. Il n'y a que le péché que Dieu ne fait pas. Mais même le mal qui arrive dans la nature, eh bien, c'est Dieu qui le façonne, quoi. La même main qui a mis une armée de 100 000 hommes sur le carreau, c'est l'histoire de Sennacherib, a fait tomber la feuille de l'arbre et le cheveu de votre tête. La main qui avait touché Job rudement vous touche doucement par le petit mal qu'elle vous fait. De la même main, la main divine, il forme le jour et la nuit, le soleil et les ténèbres, le bien et le mal. Il a permis les péchés qu'on commet en vous choquant. Il n'en a pas fait la malice, mais il en a permis l'action. Ainsi, quand vous serez un séméi, quand vous verrez un séméi, alors c'est l'histoire du roi David qui passait, il y en avait un de sa propre maison qui le maudissait, qui lui jetait des pierres, qui lui lançait des pierres. Et alors, le roi David dit, ben non, laissez-le, c'est Dieu qui lui a commandé de me maudire. Quand ainsi vous verrez un séméi vous dire des injures et vous jeter des pierres comme au roi David, dites-vous en vous-même, nous ne nous vengeons pas, laissons-le faire, car le Seigneur lui a ordonné d'en agir ainsi. Je sais que j'ai mérité toutes sortes d'outrages et que c'est avec justice que Dieu me punit. Arrêtez-vous mes bras, vous ma langue, arrêtez-vous, ne frappez point, ne dites mot. Cet homme ou cette femme me disent ou font des injures. Ce sont des ambassadeurs de Dieu qui viennent de la part de sa miséricorde pour tirer vengeance à l'amiable. N'irritons pas sa justice en usurpant les droits de sa vengeance. Ne méprisons pas sa miséricorde en résistant à ses coups de fouet tout amoureux, de peur qu'elle ne nous renvoie pour se venger à la pure justice de l'éternité. Regardez une main de Dieu toute-puissante et infiniment prudente qui vous soutient tandis que l'autre vous frappe. Il mortifie d'une main et vivifie de l'autre. Il abaisse et il relève. Et de ses deux bras, il atteint d'un bout à l'autre de votre vie doucement et fortement. Doucement en ne permettant pas que vous soyez tentés et affligés au-dessus de vos forces. Fortement en vous secondant d'une grâce puissante qui correspond à la force et à la durée de la tentation et de l'affliction. Fortement encore en devenant lui-même, comme il le dit par l'Esprit de la Sainte Église, votre appui sur le bord du précipice auprès duquel vous êtes, votre compagnon dans le chemin où vous vous égarez. Il est votre ombrage dans le chaud qui vous brûle, votre vêtement dans la pluie qui vous mouille, et le froid qui vous glace, votre voiture dans la lassitude qui vous accable, votre secours dans l'adversité qui vous arrive, votre bâton dans les pas glissants, et votre port au milieu des tempêtes qui vous menacent de ruines et de naufrages. C'est un extrait de l'itinéraire d'éclair. Oui. Ensuite, il dit, il faut regarder les plaies et les douleurs de Jésus-Christ crucifié. Il vous le dit lui-même. « Oh, vous tous qui passez par la voie épineuse et crucifiée, par laquelle j'ai passé, regardez et voyez, regardez les yeux mêmes de votre corps, et voyez par les yeux de votre contemplation, si votre pauvreté, votre nudité, votre mépris, vos douleurs, vos abandons sont semblables aux miens. Regardez-moi, moi qui suis innocent, et plaignez-vous, vous qui êtes coupable. » Le Saint-Esprit nous ordonne par la bouche des apôtres ce même regard de Jésus-Christ crucifié. Il nous commande de nous armer de cette pensée, la plus perçante et la plus terrible à tous nos ennemis que toutes les autres armes. Quand vous serez attaqués par la pauvreté, par l'abjection, par la douleur, par la tentation et par d'autres croix, armez-vous d'un bouclier, d'une cuirasse, d'un casque, d'une épée à deux tranchants, savoir de la pensée de Jésus-Christ crucifié. Voilà la solution de toute difficulté et la victoire de tout ennemi. Bon, quand on a des croix, ben, il faut penser à Jésus-Christ crucifié et regarder combien lui il a souffert en étant innocent et combien peu nous souffrons en étant coupables. Alors ensuite, il dit, il faut regarder le ciel en bas et l'enfer. Quatrièmement, regardez en haut la belle couronne qui vous attend dans le ciel si vous portez bien votre croix. C'est cette récompense qui a soutenu les patriarches et les prophètes dans leur foi et leur persécution, qui a animé les apôtres et les martyrs dans leurs travaux et dans leurs tourments. Nous aimons mieux, disaient les patriarches avec Moïse, nous aimons mieux être affligés avec le peuple de Dieu pour être heureux éternellement avec lui que de jouir pour un moment d'un plaisir criminel. Nous souffrons de grandes persécutions à cause de la récompense, disaient les prophètes avec le roi David. Nous sommes comme des victimes destinées à la mort, comme un spectacle au monde, aux anges et aux hommes, et comme la balayure et l'anathème du monde, disaient les apôtres et les martyrs avec saint Paul, à cause du poids immense de la gloire éternelle que ce moment d'une légère souffrance produit en nous. Regardons sur notre tête les anges qui nous crient, prenez garde de perdre la couronne marquée pour la croix qui vous est donnée. Si vous la perdez, si vous la portez bien, si vous ne la portez pas, prenez garde de perdre la couronne marquée pour la croix qui vous est donnée si vous la portez bien. Si vous ne la portez pas bien, un autre la portera comme il faut et ravira votre couronne. Combattez fortement en souffrant patiemment, nous disent tous les saints, et vous recevrez un royaume éternel. Écoutons enfin Jésus-Christ qui nous dit, je ne donnerai ma récompense qu'à celui qui souffrira et vaincra par sa patience. Enfin, regardons en bas la place que nous méritons et qui nous attend dans l'enfer, avec le mauvais larron et les réprouvés, si nous souffrons comme eux avec murmure, avec dépit et avec vengeance. Écrions-nous avec saint Augustin, brûlez, Seigneur, coupez, taillez, tranchez en ce monde-ci pour punir mes péchés, pourvu que vous les pardonniez dans l'éternité. 12e conseil, on arrive à la fin. Ne jamais se plaindre des créatures. Ne vous plaignez jamais volontairement et avec murmure des créatures dont Dieu se sert pour vous affliger. Distinguez pour cela trois sortes de plaintes et de maux. Il va dire quand est-ce qu'on fait un péché en se plaignant. La première plainte est involontaire et naturelle. C'est celle du corps qui gémit, qui soupire, qui se plaint, qui pleure, qui se lamente. Quand l'âme, comme je dis, est résignée à la volonté de Dieu dans sa partie supérieure, il n'y a aucun péché. La seconde plainte, c'est celle qui est raisonnable. C'est quand on se plaint et qu'on découvre son mal à ceux qui peuvent y mettre ordre, comme à un supérieur ou à un médecin. Voilà, je suis malade, je souffre, je vais voir le médecin. Bon, ben ça c'est raisonnable. Cette plainte peut être imparfaite quand elle est trop empressée, mais elle n'est pas péché. La troisième plainte, c'est celle qui est criminelle, celle qui est pécamineuse. C'est lorsqu'on se plaint du prochain pour s'exempter du mal qu'il nous fait souffrir, ou pour se venger. C'est quand on se plaint de la douleur que l'on souffre, en consentant à cette plainte et en y ajoutant l'impatience et le murmure. Voilà, ça c'est péché. Bon, ça va du péché véniel jusqu'au péché mortel, si on se révolte contre Dieu et qu'on blasphème. Hein. Ça arrive. Alors, 13e, ne recevoir la croix qu'avec reconnaissance. Ne recevez jamais aucune croix sans la baiser humblement avec reconnaissance. Et quand Dieu tout bon vous aura favorisé de quelques croix un peu considérables, remerciez-l'en d'une manière spéciale et l'en faites remercier par d'autres. À l'exemple de cette pauvre femme qui, ayant perdu tout son bien par un procès injuste qu'on lui suscita, fit aussitôt dire une messe d'une pièce de 10 sous qui lui restait afin de remercier Dieu de la bonne aventure qui lui était arrivée. Bon. On vous vole tout, il vous reste 10 francs, ben faites dire une messe pour remercier le bon Dieu qui est 10 francs. C'est ça l'histoire. Ouais. Bon. C'est comme l'histoire de Saint Jean de Quinty, là, elle est marrante. Il se fait dévaliser en voyage. Puis alors il part, ils ont laissé son manteau pour pas qu'il soit tout nu quand même. Une espèce de machin. Puis alors en marchant, tout de suite après, il dit, j'avais cousu 3 pièces d'or dans la doublure du manteau. Alors il déchire son manteau, il court après les voleurs, vous avez oublié 3 pièces d'or. Les types se retournent, ils ont tellement été ébahis qu'ils ont tout rendu, ils se sont convertis. Ouais, c'est l'histoire de la vie des saints, ça. Bon, c'est un peu le même genre. Quoi. Se charger de croix volontaires. Si vous voulez vous rendre digne de recevoir les croix qui viendront sans votre participation et qui sont les meilleures, chargez-vous-en de volontaires avec l'avis d'un bon directeur. On demande à son confesseur. Par exemple, avez-vous chez vous quelques meubles inutiles auxquels vous avez quelque affection? Donnez-le aux pauvres en disant, voudrais-tu avoir du superflu quand Jésus est si pauvre? C'est tout ça, quoi. Avez-vous horreur de quelque nourriture, de quelque acte de vertu, de quelque mauvaise odeur? Goûtez, pratiquez, sentez et vainquez-vous. En parlant, il y avait une répugnance chez les malades, chez les pauvres. Alors, un beau jour, il a pris un verre de pu, puis il a bu comme ça. C'était fini, il avait vaincu sa répugnance. Bon, c'est pas à faire, parce que... C'est peut-être malade après, quoi, mais enfin bon. Vous voyez ? Aimez-vous avec un peu trop de tendre et empressez quelques personnes, ou quelques objets. On y attachait des choses qu'on a, par exemple. Absentez-vous. Donc, vous êtes attaché à quelqu'un. Trop de tendresse et d'empressement à voir quelqu'un. Absentez-vous exprès. Ou privez-vous de la rencontrer. Éloignez-vous de ce qui vous flatte. Avez-vous quelque saillie de nature pour voir? Bon, c'est être curieux, quoi. Ou pour agir, ou pour paraître, pour aller en quelque endroit. Arrêtez-vous, taisez-vous, cachez-vous et détournez vos yeux. Haïssez-vous naturellement un tel objet, une telle personne? Allez-y fréquemment et surmontez-vous. Il y a quelqu'un que vous n'aimez pas, faites exprès d'aller lui dire bonjour et de lui parler. C'est ça que ça veut dire. Si vous êtes vraiment ami de la croix, l'amour qui est toujours industrieux, vous fera trouver ainsi 1000 petites croix dont vous vous enrichirez insensiblement, sans crainte de la vanité, qui se mêle souvent dans la patience avec laquelle on endure les croix éclatantes. Et parce que vous aurez été ainsi fidèle en peu de choses, le Seigneur, comme il l'a promis, vous établira sur beaucoup, c'est-à-dire sur beaucoup de grâces qu'il vous donnera, sur beaucoup de croix qu'il vous enverra et sur beaucoup de gloire qu'il vous préparera.